Donc, dans cette séquence, cette dernière séquence de la journée, on va s'attacher à la question donc, de la recherche en éducation dans les enjeux de politique publique. Il y aura deux temps. Un premier temps, un exposé un peu général que je vais faire maintenant. Et dans un même temps, donc, on en discutera avec Patrick Picard, qui est un collègue de l'INRP du Centre Alain Savary et qui vous parlera donc de politique publique de façon très concrète avec un certain nombre d'exemples significatifs et que je lui ai demandé de venir car il a une expérience assez intéressante en la matière. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que cet exposé, finalement, on aurait dû le mettre en début d'après-midi, je m'en rends compte maintenant. C'est qu'en fait, quand on explore la recherche en éducation, on se pose inévitablement la question des recherches pour qui ? Bien évidemment, comme toute recherche académique, je l'ai souligné ce matin, la production du savoir pour le savoir est en soi légitime. Néanmoins, très rapidement, se pose quand même la question de la relation entre la recherche en éducation et le champ de l'éducation, et donc des relations entre les recherches et entre, d'une part, les pratiques et, d'autre part, les politiques. Ou, dit d'une autre façon, entre les chercheurs, les praticiens, et ce qu'on appellera rapidement les décideurs de politique publique, quel que soit les niveaux, quel que soit le niveau. Cette relation n'est pas nouvelle, mais elle est toujours aussi importante. Car il faut savoir que les chercheurs sont toujours sommés, d'une façon plus ou moins directe, de se situer dans ce schéma, et quelque part de se situer plutôt d'un côté, plutôt de l'autre, ou l'intersection, ou au contraire, parfois même en autonomie par rapport à l'un ou l'autre de ces deux pôles. Certains d'ailleurs soutiennent l'idée que les recherches en éducation peuvent être très autonomes et qu'elles n'ont de validité, entre guillemets, qu'en elles-mêmes, qu'elles n'ont de compte à rendre qu'en elles-mêmes, et que ce sont les seules lois de la recherche académique qui compte pour éprouver leur légitimité ou leur caractère plus ou moins valable. C'est quand même une position relativement marginale. En général, on se pose toujours la question du point de vue des recherches en éducation, de savoir si elles contribuent à faire avancer, d'une part, la pratique éducative, quels que soient ses niveaux, et de l'autre, les politiques publiques en éducation. D'où le titre « Des recherches pour qui ?». Mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. D'abord pour une raison très triviale. Qu'est-ce qu'est la position d'un chercheur en éducation qui est universitaire, qui est quand même le cas de la majorité des chercheurs en éducation? Il y a aussi d'autres gens qui font de la recherche en éducation sans avoir le statut d'enseignant-chercheur. Des professeurs du secondaire, des personnels d'appui, etc. Pour exemple, à l'INRP, l'INRP est un institut qui repose sur un noyau d'enseignants-chercheurs, mais aussi beaucoup de professeurs associés qui sont soit là à plein temps pour mener des recherches et qui viennent du premier degré, du second degré, soit des professeurs qui sont associés à temps partiel ou qui sont rémunérés en heures supplémentaires pour participer à des recherches. Il y a même d'autres statuts encore plus bizarres. Par exemple, nous, à la veille scientifique, mais on n'est pas en équipe de recherche et on s'en défend, même si on est toujours aux marges, on est très proche. On est composé de tas de statuts différents. Rémi, qui est là, est professeur de l'enseignement secondaire. Moi, personnellement, je suis ingénieur de recherche. Annie est professeur d'enseignement secondaire. Une autre collègue est ingénieur d'études, etc., etc. Mais si on enlève donc ces cas-là, qui ne sont pas quand même les cas les plus majoritaires dans la recherche en éducation, surtout au niveau international, les chercheurs au sens académique du terme, les universitaires, les enseignants-chercheurs, sont d'abord jugés pour leur contribution à la progression du savoir. Et quand je dis jugés, ce n'est pas un effet réputationnel. C'est leur carrière, la façon dont ils vont être payés, la façon dont ils vont avoir un poste plus ou moins intéressant, plus ou moins attractif. Ça se fait d'abord par rapport à la recherche, comme tous les anciens-chercheurs. On regarde leur dossier de publication scientifique et on les juge par rapport à cela. Donc c'est quelque chose qui est relativement important, même si évidemment on travaille tous uniquement dans la recherche de la vérité et du savoir, il y a des aspects matériels parfois qui sont structurants. Donc de ce point de vue-là, ils sont jugés par rapport au canon de la recherche académique, et on y reviendra dans le cours de certains exposés. Mais ce qui a fait beaucoup de bruit l'an dernier, à savoir la tentation, la tentative de dresser des listes de revues qui soient pertinentes pour dire quels sont les chercheurs qui sont publiants dans les équipes de recherche par rapport à l'évaluation faite par l'AERS, c'est-à-dire l'organisme chargé de l'évaluation des universitaires en France. Toutes ces tentatives ont suscité beaucoup d'émoi, puisque quelque part, ce qui était en jeu derrière, c'était la définition du plus ou moins bon chercheur. Donc vous voyez que tout ça a des incidences très, très importantes. Donc, le rapport entre politique, praticien et chercheur n'est pas évident à cause de ça. Il n'est pas non plus évident car la recherche est souvent... On reproche souvent à la recherche en éducation, et notamment du point de vue des décideurs publics et voire même des politiques, il faut bien le dire, on lui reproche souvent de ne pas être assez utile pour les praticiens. Alors, on connaît bien le débat en France, où il y a souvent un certain dédain qui est professé pour la recherche en éducation. Quand on veut même être très méchant, Annie y a fait allusion, on se moque du pédagogisme. Bon, mais en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus général. Aux États-Unis même, il y a eu énormément de débats, de discussions pour savoir si la recherche en éducation, elle était assez scientifique ou non, si c'était sérieux de chercher sur l'éducation, s'il fallait pas qu'elle devienne plus rigoureuse, parce qu'on pouvait quand même pas laisser quelque chose de si important que l'éducation, qui contribuait à la compétitivité de la nation, etc., aux mains de quelques... bon, là-bas, ils ont pas le mot de pédagogue, mais on dira, mais l'équivalent de pédagogue. Bon. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent, procès en manque d'utilité ou d'efficacité de la recherche en éducation par rapport aux praticiens. Parce que, honnêtement, la plupart du temps, pour les gens extérieurs au champ, et notamment pour les politiques, ce qu'on demande à la recherche en éducation, c'est d'être utile pour le fonctionnement du système d'éducation. C'est pas de produire du savoir pour le savoir comme ça. Mais je dirais que c'est quelque chose qui se passe dans toutes les disciplines. Quand l'État français dégage un certain nombre de sommes exceptionnelles pour des recherches, par exemple, sur le génome, c'est bien évidemment dans l'idée d'être utile sur des questions de santé publique. C'est pas uniquement pour l'avancement du pur savoir. Pareil pour les nanotechnologies, pareil pour tas d'autres disciplines. Donc c'est quelque chose qui, quand même, n'est pas totalement exceptionnel. Autre problème... Et là, j'inverse, ce sont les chercheurs qui, eux, ne veulent pas être instrumentalisés par les politiques. Il y a quelque chose dans l'éthique du chercheur qui est très importante, c'est une volonté farouche de déterminer lui-même ses objets et ses méthodologies de recherche. Je ne parle même pas des conclusions. Donc de ne pas se voir imposer les objets de sa recherche par les politiques, ni les méthodes. Et de ce point de vue-là, il y a toujours un couple terrible entre les chercheurs et politiques. Je voudrais bien qu'on me lise plus et qu'on utilise mes travaux, mais en même temps, je ne veux pas qu'on me dise vers là où, quel terrain je dois choisir, quels objets je dois choisir. Donc là, il y a toujours un problème à ce niveau-là. Et puis, il y a des politiques qui, comme ils disent, qui disent fréquemment « Je veux être éclairé par les résultats de la recherche, je veux que la recherche éclaire les choix de politique publique. » Là aussi, c'est un discours très récurrent. Je voudrais asseoir mes réformes sur, sinon des preuves scientifiques, du moins quand même des travaux relativement étayés et le plus proche possible de démarches de caractère scientifique. Mais en même temps, au fond, ce qui m'arrangerait bien, c'est qu'aussi ça converge avec ce que vous avez l'intention de faire. Car il suffit d'examiner les faits depuis des années et des années. Il y a eu parfois des consultations de chercheurs sur des objets de politique publique assez précis, mais que les politiques ont toujours eu beaucoup de mal à en tenir compte dans la durée. Dans la durée, c'est important. Non, parce que c'est pour dire que c'est pas simplement qu'il y aurait des politiques qui sont trop idiots pour en tenir compte, ou qui sont trop cyniques, ou qui ont d'autres objectifs, etc. Mais c'est que le temps de la politique et le temps de la recherche, je crois que j'y reviens après, n'est souvent pas le même. Et que bien souvent un ministre qui a commandé une série de recherches sur une question n'est plus là quand ses recherches produisent des résultats, que son successeur n'était même pas au courant, qu'entre-temps lui-même a d'autres priorités, et que bon, ben voilà, la chose tombe dans un trou dont on ne ressort pas. Ce qui nourrit en retour une sorte de lassitude, d'écœurement ou de fatalisme des chercheurs, du style « oui, oui, on va nous faire travailler là-dessus, mais de toute façon, dans 3 ans, on n'entendra plus, donc on va commencer une recherche, et puis les financements vont s'arrêter en cours de route, ou les résultats ne seront pas suivis, etc. » Je vous ai parlé du PIREF ce matin, et des conférences de consensus qui se sont arrêtées au beau milieu. Une des caractéristiques de la France, et là, je pense que c'est un peu spécifique à la France, parce que dans les autres pays, il me semble quand même que ça, c'est pas aussi caricatural, c'est qu'en France, on monte énormément d'initiatives, d'organismes ou de programmes de ce type, notamment dans la recherche en éducation, qu'on veut toujours coordonner, qu'on veut toujours structurer, qu'on veut toujours organiser, etc. Et puis que bien souvent, ces choses-là sont abandonnées en cours de route, mais même pas sans qu'il y ait de décision très claire. Moi, j'ai vu des tas d'organismes de la recherche en éducation en France qui ont été abandonnés. Mais comment on constate qu'ils sont abandonnés ? Ah ben, un jour, il n'y a plus personne qui en parle. Mais jamais il y a quelqu'un qui dit « Bon, nous avons décidé, au vu des pièces que nous avons au dossier, au vu de nos priorités, etc., d'arrêter cette expérience. » Non, non. L'expérience n'est jamais arrêtée. Simplement, on arrête de la financer, on ne nomme plus de successeurs, on réaffecte les locaux et, entre-temps, ça a disparu. Je me rappelle, j'ai passé au début que j'étais à la veille scientifique un certain temps, par exemple, à découvrir ce qui était devenu le PIREF. Parce que bon, il est devenu quoi le PIREF ? Puis un jour, je rencontre Marie Durubella, je lui dis mais et le PIREF ? Elle me dit ah ben non, ça a été arrêté. Ah bon ? Bon, et ça a été la même chose pour le CNCRE avant lui. Il y a eu même aussi un conseil de l'innovation scolaire qui avait provoqué la démission du directeur de l'INRP à l'époque, qui s'appelait Philippe Mérieux. Parce qu'il n'était pas content qu'il y ait ce conseil qui se mette en place. Le conseil a été mis en place, puis le ministre a changé, le conseil a été abandonné. Enfin, il y a des tas de péripéties comme ça dont ce n'est pas le lieu d'en faire l'histoire, mais qu'il faut avoir en tête pour comprendre ces relations entre la recherche et les politiques ou la recherche et les politiques publiques. Et enfin, dernier aspect, c'est un constat, c'est que le débat public sur l'éducation est rarement occupé par les chercheurs. Je ne dirais pas à cause de qui c'est, je n'en sais strictement rien. Puisque c'est à la fois tout journaliste, politique, chercheur, au public, je ne sais pas, mais il est un fait, c'est qu'à part 2-3 noms qui sont un peu plus médiatiques que les autres, si je vous dis Dubé, Mérieux, vous les voyez de temps en temps, on pourrait pousser peut-être même jusqu'à Marie Durubella ou Nathalie Mons pour les plus pointus, mais grosso modo quand même, 98% des chercheurs en éducation n'accèdent jamais au débat public sur l'éducation. C'est-à-dire concrètement, ils sont de toute façon pas invités dans les émissions où on parle de leurs questions là, on les voit pas dans les journaux, ils signent pas de tribune, il y a des colloques, des conférences qui tiennent sans eux sur leurs questions. On ne peut pas dire qu'en France, les chercheurs sont invités dans le débat public en tout état de cause, sans commune mesure avec ce qui se passe dans d'autres secteurs de la vie sociale. Quand on parle d'environnement, quand on parle de transport, quand on parle de police, etc., vous avez toujours quelques chercheurs, entre guillemets, parce que je ne sais pas trop leur statut, mais qui sont invités sur les plateaux et on voit écrit dessous CNRS quelque chose, institut quelque chose, université machin. Bon, on voit que c'est des gens qui procèdent plus ou moins du monde académique. Tel n'est pas le cas sur les chercheurs en éducation ou alors parfois ça vire un peu au gadget ou uniquement quand il s'agit de remettre en selle la grande querelle entre, en gros, les partisans de la pédagogie de l'instruction. Et là, on va mettre, pour un temps, Finkielkraut et Mérieux face à face. Mais là, on est quasiment plus dans le grand guignol que réellement dans l'expression d'un débat public pour la recherche en éducation. Non pas à cause des protagonistes, mais sur la façon dont c'est mis en scène. Donc voilà, il y a bien d'autres raisons, mais des signes d'une attente brouillée. Il faut dire que de ce point de vue-là, la situation institutionnelle en France est très incertaine. Alors, vous avez des pays où clairement il y a l'exécutif ministériel d'un côté et de l'autre, il y a des endroits où s'exprime le conseil qui éclaire les décisions politiques. Cet autre endroit, ça peut être dans beaucoup de pays les universités elles-mêmes, puisque dans beaucoup de pays... tout est dans les universités, donc quand le gouvernement a besoin d'un avis, ben, il lance un appel d'offres et c'est des équipes de recherche d'université qui répondent. Ça, c'est le cas le plus commun. Mais il peut y avoir aussi d'autres lieux, je ne sais pas quelle est la traduction en français, donc dit les think tanks à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire en gros des sortes de quelque chose qui est entre les clubs, les consultants, les lieux d'expertise, enfin bon, qui sont là en gros pour rendre des conseils et souvent il y a plein d'universitaires dedans. Ça peut être des instituts autonomes, organiquement, même s'ils sont financés par le ministère, mais qui sont autonomes scientifiquement. Ça peut être des choses comme ça. Nous, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Le ministère a sa propre direction en charge des études et de la statistique, où il y a souvent eu des gens extrêmement brillants, qui s'appellent donc, alors je ne me rappelle plus quel est le dernier acronyme, mais en gros c'est la division des études et de la prospective, ou de la programme, non de la prospective, oui. Alors bon, là on est dans une conjoncture un peu compliquée, parce qu'il y a eu beaucoup de remous autour de ça. Mais il faut penser par exemple que quelqu'un comme Claude Tello a dirigé l'ADEP, donc c'est pas rien, Claude Tello, niveau académique, bon, il venait pas de la recherche en éducation, il venait de l'INSEE évidemment, mais quand même. Et c'était à un moment donné, donc cette direction avait un côté scientifique très marqué. En tout cas, il y avait une articulation avec les chercheurs qui était évidente, y compris à travers les publications et tout. Bon, aujourd'hui c'est un peu moins, etc. Mais c'est assez exotique qu'une direction du ministère agisse un peu comme un département de recherche de temps en temps. Il y a eu des moments, ça a été l'INRP. Bon, il faut bien dire, on est un établissement public administratif. On n'a pas le statut juridique ni des universités, ni des établissements de recherche. Donc, quelque part, on n'est pas une direction du ministère. On a un directeur à nous, un président à nous, etc. Mais, en même temps, on n'a pas l'autonomie, la liberté scientifique qui est censée avoir une université ou un organisme de recherche. Donc, comme ça, sur la stricte lecture du statut juridique, et l'INRP, c'est quelque chose pour conseiller le ministère. Bon. La vérité oblige à constater sur les dernières années que j'ai pas l'impression que une partie très très importante de l'INRP a consisté à répondre à des demandes du ministère et à conseiller. Et là, je le constate objectivement. Après, pourquoi, comment, etc., c'est un autre débat, mais c'est un fait. De même, dans les situations institutionnelles incertaines, bon, j'en ai parlé, c'est ce constat récurrent d'un manque de coordination de la recherche en éducation qui a donné lieu périodiquement dans le temps à des tentatives de regrouper, restructurer, coordonner, superviser tout ça. Bon, le dernier avatar, c'était ce dont je vous ai parlé, à la fin des années 90, la constitution d'un comité national de coordination de la recherche en éducation et du PIREF, qui était un programme incitatif de recherche en éducation et formation. Une belle coquille dans mon diaporama, une recherche qui a du mal à exister sans utilité sociale, et non pas dans utilité sociale. Là aussi, c'est quelque chose, un constat général, qui est que quand la recherche n'a pas d'utilité sociale, elle tend à un peu à s'assécher sur elle-même et à perdre son sens, ce qu'avait souligné le rapport Pro en 2001. Autre aspect aussi très français pour le coup, c'est l'absence de grandes enquêtes, ce qu'on appelle les surveys anglo-saxons. C'est-à-dire la difficulté d'avoir ne serait-ce que des données un peu solides sur autre chose que les grands chiffres officiels de régulation. C'est-à-dire qu'évidemment, on sait combien d'élèves passent le baccalauréat, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, on sait leur origine socio-professionnelle. Bon. Donc ces chiffres-là, ces chiffres, je dirais, de gestion de la population éducative, on les a. En revanche, tous les aspects qualitatifs, on en manque cruellement. Et en France, on n'a jamais mis beaucoup d'argent pour financer ce type de grande enquête. Et non seulement on n'a pas mis beaucoup d'argent là-dedans, mais il faut bien le dire qu'il n'y a pas eu une demande exprimée de façon très très forte de la part de la communauté académique pour avoir ce type de grande enquête. Il y a également toujours eu de façon récurrente la question de la tentation universitaire, c'est-à-dire la tentation de universitariser à fond la recherche et donc d'autonomiser le champ par rapport à son inscription dans les politiques et dans les pratiques. J'en ai un peu parlé au début. Il faut comprendre, vous êtes chercheur en éducation, vous aspirez à être un chercheur aussi légitime, aussi digne que vos autres collègues. Donc de ce point de vue-là, les reconnaissances les plus ultimes, c'est devenir une grosse équipe qui a beaucoup de publications, qui soutient beaucoup de thèses, qui arrive à amener beaucoup de ces jeunes maîtres de conférences à l'habilitation à diriger les recherches, à organiser des colloques, etc. Et c'est beaucoup plus utile de ce point de vue-là que de chercher à faire des recherches qui soient entre guillemets socialement utiles, socialement pertinentes. Donc à un moment donné, ça oriente l'agenda des recherches et ça a des effets très concrets. D'autant plus quand vous êtes dans une situation comme la situation française, où, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure ou si j'ai une diapo prévue là-dessus, mais je vais le dire tout de suite, les sciences de l'éducation n'existent pas au CNRS. Pourquoi c'est une répercussion très forte? Jusqu'à très récemment, seuls les organismes de recherche type CNRS, bon aussi INSERM, etc., mais bon, là en l'occurrence, parlons du CNRS, évaluaient réellement les équipes de recherche. En gros, dans toutes les autres disciplines, il y a une hiérarchie que tout le monde connaît des équipes de recherche, et il y a celles qui sont associées au CNRS, c'est-à-dire qui ont le sigle CNRS quelque part, on dit UMR maintenant, bon bref, quel que soit le mot conjoncturel, qui sont associées au CNRS, et celles qui ne le sont pas. Et c'est clair que c'est un critère de qualité, qui en, après aussi a des effets très concrets au niveau des financements, etc. Bon. Les sciences de l'éducation, pour des raisons historiques, n'a jamais eu de section au CNRS. Donc, elles n'ont jamais été évaluées par le CNRS. Donc, aucune équipe pure de sciences de l'éducation ne pouvait être équipe CNRS. Donc, quelque part, il y avait une sorte de, d'étape dans la, la dignité universitaire, dans l'excellence scientifique, qui leur était interdite de droit. Non seulement de fait, mais de droit, puisque ne pouvait jamais être reconnu CRS qu'on était équipe sciences d'éducation. Donc, quelque part, vous étiez sociologue, vous étiez historien, vous étiez matheux en didactique des maths, vous étiez, je ne sais plus ce que j'ai oublié comme discipline, mais c'est pas grave, n'importe quelle discipline, qui était au CNRS. Vous aviez tout intérêt de ce point de vue-là, si vous aviez l'opportunité, à aller dans une équipe de votre discipline d'origine qui est évaluée par le CNRS, plutôt que d'être, que de, d'aller dans une équipe de sciences d'éducation ou de créer votre équipe de sciences d'éducation. On verra demain matin, mais ça a des conséquences très claires. En France, pendant longtemps, l'IREDU a eu un rôle effectivement assez moteur, parce que l'IREDU, comme il venait de l'économie de l'éducation, ils étaient associés CNRS depuis le milieu des années 70. Pareil pour l'équipe du CERLIS de Paris 5, qui est en plutôt orientation sociologie, et, mais qui bénéficie grâce à la sociologie de cette association CNRS. Et d'autres équipes plutôt qui sont dans le champ de la formation, de l'emploi, donc chacune pouvant se raccrocher, sociologie, économie, etc. Psychologie, bien évidemment. Donc ça, ça a des effets très concrets sur la structuration de la recherche. Et bon, formation des maîtres et des UFM, je ne reviens pas dessus, on en a parlé pendant une heure, donc là, je crois que vous avez eu votre dose. Concilier politique et scientifique. J'ai abordé le premier thème. Le deuxième, tradition historique française incontestable, pays très centralisé, très vieille tradition où, en gros, il y a toujours un peu le fantasme que quand on est rue de Grenelle au ministère, on va pouvoir agir dans le moindre coin de la France et pouvoir décider un peu ce qui se passe de partout. Bon, ce fantasme un peu, qui n'est pas seulement un fantasme en plus des décideurs, qui est aussi, je dirais, un fantasme des citoyens. Vous savez, c'est, la France est un pays formidable où dès qu'il y a une maternelle qui dysfonctionne quelque part au fond de l'Hérault, on interpelle tout de suite le ministre là-dessus. Bon. Donc, ça joue dans les deux sens. Il y a encore cette idée de la toute-puissance de l'État central qui s'incarne dans le ministère. Bon. Mais le problème, c'est que quand tous les acteurs sont un peu dans ce jeu, c'est très difficile de penser une expertise indépendante, voire même autonome. C'est-à-dire que toute recherche est aussitôt prise dans cette loi d'airain de la centralisation et de l'uniformité française. Autre aspect aussi qui pose problème, c'est, il faut bien lire, une réticence certaine des universitaires à s'engager dans la vulgarisation ou la diffusion des résultats de la recherche, qui a plusieurs causes. Moi, j'en citerai qu'une, qui est justement dans leur carrière, c'est très mal pris en compte. À l'occasion du classement des revues qui a eu lieu l'an dernier, le CNU et l'AERS ont mouliné un classement où il y avait quatre catégories A, B, C, D. Bon, alors ils vous diront tous que c'était pas un ordre d'excellence, mais enfin bon, vous imaginez qu'en A c'était plutôt mieux qu'en D. Hein. Bon, et c'est quoi la catégorie D? C'était les catégories de vulgarisation. Bon. Ça dit tout. D'autant plus que dans la revue de vulgarisation, ils avaient mis la revue internationale d'éducation, qui est la revue éditée par le centre TROU, le I, International d'études pédagogiques, le CIEP, qui est une revue très connue en France, à l'étranger, qui fait souvent référence, parce que en gros c'est une revue où on invite des gens de très bon calibre pour faire des numéros thématiques, mais c'est vrai, c'est pas une revue à comité de lecture. Bon, sauf que là c'était un peu absurde. Bon, et puis ça avait comme conséquence, c'est que l'universitaire moyen, et notamment le jeune maître de conf quand même, qui légitimement veut faire carrière, si on lui dit signale, tu écris dans les cahiers pédagogiques la revue du CUP ou le Sciences Humaines, c'est très bien, mais ça comptera beaucoup moins que d'éditer dans une revue comment dire, dont tu ne connaissais pas encore le nom hier, mais qui est classée en catégorie B parce qu'elle est en comité de lecture. Bon, bah, il va tout de suite traduire, il vaut mieux que je publie un... Alors, ça n'a pas eu encore d'effet très structurant dans le champ de la recherche en éducation, parce que toutes ces choses-là sont nouvelles, mais c'est des choses qui ont eu des effets très forts dans d'autres disciplines, dans d'autres pays, quand ces phénomènes-là sont à maturité. Et par ailleurs, en France... Il faut bien dire que souvent, l'engagement des universitaires dans la diffusion des résultats de la recherche se fait plus par le biais de, éventuellement, de l'expertise directement auprès du politique. C'est-à-dire, le cas de figure typique, c'est l'universitaire auquel le ministre, en personne, demande un rapport. Et souvent, d'ailleurs, en France, c'est très amusant, c'est plus souvent une démarche quasiment intrapersonnelle qu'une démarche d'appel d'offres. En Angleterre, aux États-Unis, dans les pays nordiques, dans plein de pays que j'ai regardé, c'est très fréquent que le ministère lance des tas d'appels d'offres. Nous voulons qu'une équipe travaille là-dessus, nous voulons qu'une équipe travaille là-dessus. C'est l'équipe qui répond, qui rend son rapport, etc. En France, il y a souvent une mise en scène. C'est le ministre en personne, quasiment détaché de sa fonction. C'est lui qui reçoit à déjeuner le chercheur, qui parle avec lui. Et à la fin, il annonce « J'ai demandé un rapport à monsieur Machin ». Et monsieur Machin, d'ailleurs, va rendre son rapport en personne, physiquement, lors d'un autre petit rendez-vous dans les salons de Grenelle. Bon, c'est une façon de faire, mais qui, je pense, ne favorise pas souvent des engagements. Inversement, par exemple, quand on va sur les sites web des équipes de recherche britanniques, on en reparlera souvent, ils sont souvent très fiers d'afficher qu'ils ont fait telle et telle action vers le système éducatif, qu'ils ont fait des brochures, qu'ils sont allés dans un dispositif où ils ont aidé X écoles à faire telle ou telle chose, à améliorer la lutte contre l'échec scolaire, à faire des programmes avec les parents pour améliorer la prise en charge des élèves par les parents. Ils en sont très fiers. Nous, c'est pas encore visiblement dans les habitudes hexagonales. Et d'ailleurs, bon, mais ça je reboucle avec ce que j'ai dit, contradiction entre les nouveaux indicateurs d'évaluation, hein, je faisais allusion aux questions des publications scientifiques et à l'engagement social. Bon, le terme est peut-être un peu fort d'engagement social, mais c'est clair qu'aujourd'hui, bon, bah, pour sa carrière, c'est peut-être pas ce qui est le plus rentable d'aller aider une circonscription d'école à améliorer leurs pratiques plutôt que de publier ou d'aller préparer 2-3 communications pour des colloques à l'étranger. En plus de tout ça, il faut savoir qu'il y a un courant international assez important, même s'il n'a pas encore trop abordé le rivage de la France, mais je pense que ça ne saurait tarder, donc ça me semblait important de vous en parler. C'est la vogue internationale de l'evidence-based education, qui est tout un courant qui nous vient de la médecine. Il a été théorisé d'abord dans le domaine de la médecine, il s'est étendu ensuite aux politiques sociales en général, et notamment justice et éducation, qui consiste à dire, fin du XXe siècle, on ne peut pas continuer à avoir des politiques sociales qui reposent sur l'intuition ou sur les points politiques, il faut les asseoir sur des résultats scientifiques, sur les résultats avérés de la recherche, il faut leur donner une base beaucoup plus rigoureuse, d'où le nom d'Evidence-Based Education, qu'on ne peut pas traduire vraiment en français, puisqu'on oscille entre politique basée sur des preuves, ce qui ne veut pas dire grand-chose, on n'est pas dans une enquête policière, ou ça a politique basée sur des résultats provenant de la recherche. Ce qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus exact, mais qui n'est pas très joli non plus à dire. Mais enfin, vous voyez ce dont il s'agit. Pourquoi c'est important cette Evidence-Based Education? Parce que c'est devenu quasiment la doctrine officielle de nombreux pays. Je pense au Canada, je pense aux États-Unis, je pense de fait à la Grande-Bretagne, puisqu'ils ont quand même financé des instituts entiers là-dessus, mais aussi au Danemark et dans beaucoup d'autres pays, qui a eu énormément de conférences là-dessus. Il y a 2-3 ans, la présidence allemande de l'Union européenne en matière d'éducation a basé son action sur ce thème-là, puisqu'ils ont fait des colloques sur l'Evidence-Based Education. allez, en Allemagne, c'était dans le contexte où, suite aux résultats de PISA qui avaient provoqué un traumatisme profond dans le pays, c'était l'idée, on mobilise toute la recherche pour essayer de diagnostiquer quels sont les problèmes du malaise allemand, des mauvais résultats allemands à PISA, et on remet tout le monde au travail pour trouver des solutions scientifiques à tout ça. Bon. Donc c'est un mouvement relativement important qui peut même avoir d'ailleurs des aspects un peu caricaturaux. À Londres, il y a un institut qui, au nom de l'Evidence-Based Education, a prôné comme recours systématique, c'est le cas de le dire, comme moyen de d'aboutir à des résultats, les revues systématiques de recherche. Ça consiste en quoi ? On prend une question, je dis n'importe quoi, l'impact des pratiques culturelles des élèves sur leurs résultats scolaires. On prend toutes les études qui ont été menées dans le monde entier sur ce thème-là. On les passe au filtre de critères de qualité divers et variés, de rigueur, du style est-ce que l'échantillon a bien été renseigné, est-ce que les résultats sont clairs, etc. Et on consolide tout ça pour dire à la fin, alors nous pouvons dire que dans 83,7% des cas, les pratiques culturelles ont amélioré le rendement des élèves en question de X%, etc. C'est comme ça que ça se passe. Bon. Ça, c'est le cas le plus caricatural. Dans une vision ouverte, on pourrait dire, en tordant le bâton, puisque le thème n'avait pas du tout été utilisé à l'époque, que la conférence de consensus, qui là également est quelque chose qui vient de la médecine, c'est une forme d'evidence-based education. C'est-à-dire de mettre en gros tous les chercheurs autour de la table, de faire l'état des recherches et de dire, bon, bah, quels enseignements on peut en tirer. Le problème, c'est que dans une vision réduite, ça peut être une considération essentiellement technique de la question éducative. Annie, dans son exposé précédent, vous a fait allusion à ça. Il y a une tentation récurrente dans l'éducation de dire tout ça n'est qu'affaire de technique, de trucs, de façon de faire. En gros, dans la classe, il y a une bonne façon de faire qui est plus efficace que les autres. Le problème, c'est d'identifier, de dire c'est celle-là. Et ensuite, tous les gens n'ont qu'à l'adopter, et puis c'est bon. C'est la tentation que tout le monde a, du style, vous savez, c'est comme les conseils que se refilent les profs. Attention, c'est le premier jour que tout se joue, hein. Alors, le premier jour, il faut être très strict. Tu les obliges à rester debout, tu commences pas le cours tant qu'il n'y a pas de silence, tu fais enlever les casquettes, etc. Enfin bon, on connaît tout ça, qui s'appuie sur des acquis d'expérience et tout. L'idée, c'est un peu une technicisation totale, théorique de ça, en disant, l'éducation, ce n'est qu'un ensemble de trucs, de techniques. Quelque part, le reste ne pose pas de problème. Et le risque, c'est d'évacuer tout ce qui est des dimensions normatives et éthiques au profit de ces considérations techniques. Je parle de ça parce qu'il y a énormément, Marie Gossel, une collègue qui va arriver, vous en parlera sans doute demain, je crois, énormément de travaux aux États-Unis qui s'appellent What Works, qu'est-ce qui marche, ce qui marche. Chercher les bonnes recettes, les bonnes pratiques, et qui ensuite pousse à la diffusion des bonnes pratiques. C'est-à-dire que l'idée, c'est la recherche va identifier quelles sont les bonnes pratiques, et ensuite il suffira de les diffuser. Bon. Le problème, c'est toujours les bonnes pratiques par rapport à quoi ? Alors, aux États-Unis, souvent la question elle est relativement simple. Comme tout leur système d'éducation repose sur des batteries de tests qu'on fait passer à différents niveaux de la scolarité, la bonne pratique, c'est celle qui arrive à avoir un certain niveau de réussite à ces tests. Comme si nous, en gros, les bonnes pratiques d'enseignement, ça serait d'arriver à un très bon résultat au baccalauréat. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit si, est-ce que l'examen lui-même, il est censé ? Est-ce qu'on forme des bons citoyens avec ça ? Et puis, qu'est-ce que c'est qui rentre en jeu pour arriver à ce résultat ? Ça pose beaucoup de questions et c'est pas toujours évident. Et puis, ça a une incidence méthodologique que j'ai soulignée en parlant des revues systématiques de recherche, c'est que souvent, ça a tendance à disqualifier le qualitatif au profit du quantitatif. Il y a une phrase en anglais que j'aime bien, que je prononce très mal parce que je suis très mauvais en anglais. Rémi, qui est prof d'anglais, va rigoler, mais c'est, je ne sais même pas si je mets les S au bon endroit, mais c'est « any number beats no number ». Bon, en gros, en français, mais ça sonne moins bien. Quand il y a un chiffre, c'est toujours mieux que quand il n'y a pas de chiffre. Tout chiffre bat l'absence de chiffre. Bon, et c'est vrai que le quantitatif a cette sorte de magie qui fait que quand on est capable de dire « 75% des élèves ayant réussi leur baccalauréat portent une casquette verte, bah, tout de suite, on a l'impression qu'il faut que tout le monde ait une casquette verte. » Bon, alors dit comme ça, ça fait rigoler, hein. Bon, enfin, il y a des classements très, très sérieux, notamment dans le palmarès des universités comme le palmarès de Shanghai, qui repose à peu près sur le même principe. Et il y a des politiques entières qui sont basées sur ces classements, ou du moins qui les invoque dans leur motif. Et de ce point de vue-là, c'est très efficace, la culture du chiffre. D'autant plus efficace qu'en France, on a été très faible là-dessus. Je vous ai dit qu'il y avait un manque énorme de grandes enquêtes statistiques. Il n'y a pas non plus beaucoup d'enquêtes empiriques. Et il est arrivé, paraît-il, c'est pas moi qui le dis, mais il est arrivé qu'on dise qu'en France, on a un peu abusé du fait que je rencontre deux collègues enseignants, je parle plusieurs journées avec eux et j'appelle ça une enquête. Bon, moi, je pense que des vrais chercheurs ne peuvent pas faire ça. Mais c'est souvent l'image que ça a donné à l'extérieur. Bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup au nom de démarches anthropologiques, ethno-méthodologiques qui sont très intéressantes, qui apportent énormément à la compréhension des phénomènes éducatifs. On a souvent parfois eu une lacune d'enquête quantitative plus grande. Et le problème, c'est qu'avec l'evidence-based education, je dirais que ça fait repartir un peu le bouchon dans l'autre extrémité, c'est-à-dire en gros, tout ce qui n'est pas dans des tableaux avec des analyses de régression, dont on parlait ce matin, ce n'est pas valable. Je dis ça pourquoi ? Parce que, par exemple, en France, l'IREDU, l'Institut d'économie de l'éducation, a produit des enquêtes qui sont très sociologique, hein, contrairement à plus sociologique qu'économiste, et qui sont très intéressantes et qui sont passionnantes. Mais je me demandais des fois si une part de leur succès venait pas du fait que, surtout d'ailleurs leurs enquêtes, ils mettaient des tableaux d'indicateurs chiffrés qui tout de suite impressionnaient l'interlocuteur autant que le raisonnement et la rigueur de la démarche qu'il y avait derrière.